sur ce thème de l'ambition et de l'argent, et de l'ambition, suivant quel sens on met les mots. Il y a un texte qui m'est venu à l'esprit, je ne dirais pas qu'il s'est imposé à moi, mais d'une certaine manière, c'est un texte qui m'a paru incontournable, qui se trouve donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 34. Donc, vous connaissez, je pense, le contexte, mais pour le rappeler brièvement, on est au cœur du sermon sur la montagne, donc ce moment où Jésus donne un enseignement. Et juste avant le texte donc qu'on va lire, Jésus donne un enseignement sur la prière, donc le Notre Père, également sur le jeûne. Et donc à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre cette journée, afin que tu nous conduises et que tu bénisses nos échanges, que cette journée vraiment nous aide à pouvoir avancer dans le chemin que tu traces devant nous, en étant davantage fidèles, et aussi à pouvoir discerner ta volonté pour nous. Conduis, Seigneur, ces instants que nous te remettons au nom de Jésus. Amen. Alors, les premiers versets de ce passage, les versets 19 à 24, nous parlent surtout de l'argent. Alors, l'argent, c'est un sujet un peu tabou dans notre société. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs, de toutes les sociétés. Et ce n'est pas le cas dans la Bible. Parce qu'en réalité, dans la Bible, on trouve beaucoup de références à l'argent ou aux biens matériels. Il paraît qu'on en dénombre plus de 2000. Et Jésus n'est pas en reste, puisque 16 de ses paraboles sur 38 en font référence. De près ou de loin à l'argent ou au bien matériel ou autre. Et comme à chaque fois, Jésus est lucide quand il aborde cette question. Pourquoi? Parce qu'il sait combien l'argent peut nous influencer, voire nous dominer, comme le laisse entendre ici cette référence à Mammon, divinité qui personnifie en quelque sorte l'argent. Alors, c'est un peu difficile peut-être disons, l'étymologie du mot Mammon est assez incertaine. Il semblerait qu'en araméen, cela fasse référence à un objet dans lequel on met toute sa confiance. Et c'est sans doute là le problème. Le problème, c'est pas tant de posséder des richesses, mais le problème, c'est plutôt la relation que l'on entretient avec ces richesses. Quelle relation entretenons-nous avec l'argent, avec les biens matériels? C'est la question dérangeante, mais lucide, que Jésus, me semble-t-il, nous pose ici. Et il le fait en nous plaçant à trois reprises devant un choix radical. D'abord entre deux trésors, l'un corruptible, l'autre incorruptible. Ensuite, entre deux situations, deux conditions, la lumière, les ténèbres. Versets 22-23. Et puis enfin, il nous place devant deux maîtres, Dieu et Mammon. Et à chaque fois, il n'y a pas de troisième voie possible. Il n'y en a que deux. Et il nous faut effectivement choisir. Et à chaque fois, Jésus va nous poser une question. D'abord, le trésor. Alors, le trésor fait référence à quelque chose qui a de la valeur ou peut-être quelque chose à quoi on attribue de la valeur. C'est la raison pour laquelle Jésus nous parle ici du cœur. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et la question qu'il nous pose ici... C'est, me semble-t-il, à quoi sommes-nous attachés? À quoi notre cœur est-il attaché? Qu'est-ce que nous aimons par-dessus tout? Non seulement Jésus, me semble-t-il, dénonce ici le matérialisme qui consiste à placer toute sa confiance, son espérance, sa sécurité, dans des richesses éphémères, incertaines, mais il dénonce aussi l'usage égoïste qu'on peut en faire. Ne vous amassez pas. Cette dimension qui nous concerne, nous, ne vous amassez pas. Le prophète Ésaïe lance déjà le même avertissement dans ce passage, donc Ésaïe 5, verset 8. Quel malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a plus d'espace que pour vous seul dans ce pays. Donc on voit ici l'insistance tant chez Ésaïe que chez Jésus et dans d'autres passages de la Bible sur cette dimension égoïste. Alors naturellement, ça n'est pas le fait d'épargner pour prévoir l'avenir ou même de posséder des biens matériels qui posent problème, mais c'est justement la relation qu'on entretient. Et ici, c'est l'usage égoïste qu'on en fait, parce que la Bible, dans ce domaine en tout cas, va plutôt nous enseigner la libéralité. L'autre piège à éviter étant, comme je viens de le dire, de placer notre espérance dans ses biens, d'y attacher notre cœur, de faire de l'argent notre but ultime dans l'existence. Car notre sécurité n'est pas là, dans ce trésor terrestre, corruptible, comme nous le rappelle ici Jésus. Notre sécurité est dans les cieux, dans ce que Dieu a accompli pour nous pleinement, parfaitement, en Jésus-Christ. On pourrait dire dans ces valeurs du royaume, telles que Jésus les énumère au tout début de ce sermon sur la montagne, chapitre 5, ces béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux les compatissants, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, les artisans de paix, et tout cela fait finalement assez peu de bruit, c'est quelque chose qui ne saute pas aux yeux, c'est quelque chose qui est plutôt discret. Et donc après le cœur, Jésus nous parle des yeux ou de l'œil. Alors dans la vie de tous les jours, l'œil nous permet de nous orienter et donc, d'une certaine manière, d'agir avec justesse. Et c'est en cela, me semble-t-il, que l'œil apporte la lumière. Si vous marchez à l'aveugle dans une pièce obscure, vous risquez de trébucher sur les obstacles parce que vous ne les verrez pas. Alors qu'avec la lumière, l'œil nous guide dans la bonne direction, parce que justement, la lumière nous permet d'éviter ces obstacles. Et donc ici, la question qui nous est posée, il y a tout qui est en même temps, c'est pas grave, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qui nous guide dans la vie ? Au psaume 119, verset 105, le psalmiste compare la parole de Dieu à la lumière qui éclaire notre chemin. Et n'est-ce pas justement cette lumière qui devrait nous conduire, elle qui, cette parole qui nous invite à toujours plus de consécration, chaque fois que nous la méditons, chaque fois que nous essayons de la faire nôtre. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est une autre parole qu'on retrouve dans le même psaume 119, un peu plus tôt, au verset 11. Et donc, dans son commentaire du Sermon sur la montagne, et dans ses versets en particulier, John Stott écrit ceci. « Tout comme notre œil transmet la lumière à notre corps tout entier, notre projet, notre ambition de mettre tout ce que nous sommes au service de Dieu et des hommes, transmet sens à notre vie tout entière et lumière sur nos activités. » On retrouve ici cette dimension de consécration. Et au fond, c'est cette consécration à Dieu qui, effectivement, nous permettra de nous conduire dans la bonne direction. Encore faut-il que notre œil soit bon. Ça, c'est la version que j'ai lue dans la Nouvelle Bible Seconde. Certaines versions disent « en bon état ». Littéralement, c'est simple. Semble-t-il, un œil qui ne regarde pas dans deux directions à la fois, qui n'est pas dans la dissimulation. Bonhoeffer, qui a aussi écrit un beau commentaire de ce passage, nous dit qu'un œil en bon état, c'est un œil qui fonctionne de manière à ce que rien ne puisse intervenir entre le Christ et le croyant. On retrouve cette dimension de la consécration. Enfin, troisième question que nous pose ici Jésus, par rapport au troisième choix, c'est quel est ton maître ? Quel est ton maître ? Qui sers-tu ? Dieu ou l'argent ? Alors là, je pense qu'il serait tentant, pas seulement pour les artistes, hein, mais pour tout un chacun, et moi je ne rentre pas trop, je pose un peu le cadre général du thème, il serait tentant de garder les deux en même temps, de faire un peu moitié-moitié, d'intégrer les deux réalités. Et Jésus est radical en ce sens qu'il nous dit que ça n'est pas possible. S'attacher à l'un revient à mépriser l'autre. Par conséquent, servir Dieu le dimanche et Mammon la semaine est impossible pour qui veut plaire à Dieu. La place centrale de notre vie ne peut être partagée pour le disciple du Christ. Et là, on retrouve la radicalité de l'Évangile dans son exigence. Dieu seul doit occuper la place centrale. Sinon, c'est reconnaître qu'il n'est plus le but suprême dans notre vie. Il n'est plus la valeur ultime, celle qui compte par-dessus tout. Servir Mammon, et dans la version que j'ai lue, c'est devenir esclave hein, de Mammon, de Dieu. Servir Mammon, c'est servir un maître insatiable qui cherchera à nous dominer. Celui qui aime l'argent, dit l'Ecclésiaste, n'est pas rassasié par l'argent. En revanche, si c'est Dieu qui occupe la place centrale dans notre vie, alors l'argent retrouve sa vraie place, celle qu'elle devrait occuper. C'est-à-dire que l'argent, les biens matériels, redeviennent un moyen utile, nécessaire, et non pas un but. À la différence de l'argent, Dieu n'exerce pas une domination tyrannique sur nous parce que Dieu n'a besoin de rien ni de personne pour exister. Il n'a pas cherché à revendiquer, à avoir des besoins particuliers, puisqu'il se suffit, Dieu se suffit à lui-même. Et de plus, la Bible nous dit que Dieu est amour. Et dans sa bonté, il pourvoit généreusement à tous nos besoins, ce qui devrait ôter toute source d'inquiétude dans notre vie, justement par rapport à ces besoins fondamentaux de l'existence. Et pourtant, Jésus nous connaît, Jésus nous connaît, il sait que par nature nous sommes inquiets. Alors on l'est plus ou moins, mais je dirais qu'on est tous par nature inquiets. Et à trois reprises dans ce passage, Jésus nous dit, je pense que vous l'avez noté à la lecture, hein, ne vous inquiétez pas. S'il le répète par trois fois, ça n'est sans doute pas pour rien. Et Jésus ne fait pas que nous dire ne vous inquiétez pas, parce que quand il nous dit, quand on dit à quelqu'un qui est inquiet, ne t'inquiète pas, je ne sais pas si ça va beaucoup l'aider en soi. L'inquiétude n'est pas toujours mauvaise. Hein. Parfois, il est nécessaire d'être inquiet, mais quand elle devient maladie, c'est plus embêtant. Jésus va plus loin. Il nous donne en quelque sorte la solution, le remède pour sortir de l'inquiétude, pour être, on pourrait presque dire parfois même, guéri d'une inquiétude maladive, quand il nous dit à la fin, chercher d'abord le règne et la justice de Dieu. Sachant que tout cela, tout le reste, hein, ce qu'il vient de mentionner, la nourriture, le vêtement, le nécessaire pour la vie, nous sera donné, vous sera donné par surcroît, par-dessus. Il me semble que c'est là où justement nous devrions trouver la racine de notre ambition. En nous exhortant à mettre de l'ordre dans nos priorités, eh bien Jésus nous invite à être ambitieux pour Dieu. Et non pas pour nous-mêmes. L'ambition n'est pas mauvaise, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est arrivé de rencontrer des chrétiens, même dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu des chrétiens qui m'ont dit, moi, que je me suis converti, j'ai appris à ne plus être ambitieux. L'ambition en soi n'est pas quelque chose de mauvais. On pourrait dire, même dire bien au contraire, du point de vue biblique. Mais tout dépend pourquoi ou pour qui nous sommes ambitieux. Comme pour l'argent, le problème n'est pas tant dans l'ambition que dans ce qui motive notre ambition. Une ambition centrée sur soi-même, à la recherche de son unique intérêt personnel, mène tout droit dans une impasse, et surtout une telle ambition va nécessairement augmenter, même considérablement, notre inquiétude. Pourquoi ? Parce que, comme Jésus nous le rappelle ici, les biens sur terre hein, sont des biens éphémères, incertains. Et donc, si nous y plaçons notre confiance, si ces biens deviennent notre ambition première, il y a effectivement de quoi se faire du souci. Et ce qui est dit ici de l'argent, des biens matériels, pourrait aussi s'appliquer à d'autres domaines de l'existence. On peut penser à la notoriété. Qui un jour peut être bonne, puis le lendemain moins bonne, à la santé. On peut penser aussi à nos projets, tout simplement. On peut être beaucoup, je dirais, d'ambition dans nos projets, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, tout dépend effectivement encore l'objectif, ce qui motive nos projets. Mais tout cela, sur Terre, reste finalement incertain, vulnérable, fragile. Et ici, pour sortir un peu de ce passage et apporter d'autres textes en écho à ce passage, j'ai pensé à cette parole de Jacques. Alors, quand on lit Jacques, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de similitudes entre Jacques et puis le sermon sur la montagne. Et ici, au chapitre 4, versets 13 à 16, Jacques nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. On voit qu'à la suite de Jésus, Jacques nous rappelle ici notre vulnérabilité et nous met en garde contre la tentation de placer sa confiance dans un discours présomptueux, car c'est Dieu et lui seul qui, dans sa souveraineté, conduit toute chose. Autre passage, cette fois dans la première épître de Pierre, et Pierre ici cite le prophète Ésaïe, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » On voit d'un côté une gloire éphémère, toute humaine, et de l'autre, la gloire éternelle qui vient de Dieu. La question qui nous est posée ici, c'est laquelle de ces gloires nous motive ? La question de la motivation. Pour laquelle sommes-nous ambitieux dans ce que nous entreprenons ? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est possible d'être ambitieux pour Dieu en dehors d'un ministère spécifique pour lui. Il est possible d'être ambitieux pour Dieu en dehors d'un ministère à plein temps. Ce n'est pas que celui qui est, je dirais, pleinement consacré dans le sens d'un ministre du culte ou qui va vraiment exercer son ambition. Non, là où Dieu nous envoie, là où nous sommes, là où nous vivons, eh bien nous sommes amenés dans tout ce que nous faisons à vivre cette ambition pour Dieu. Ça rejoint, me semble-t-il, cette exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, parmi les artistes bien connus, l'un de ceux qui m'est venu à l'esprit, c'est Jean-Sébastien Bach, qui d'ailleurs de son vivant n'était peut-être pas si connu que ça, qui était donc luthérien, profondément croyant, et qui avait pour devise, pour motivation, pour ambition, je pense, on peut dire, de tout faire pour la gloire de Dieu. Et à la page, en bas de ses manuscrits, il mettait ces lettres, hein, SDG, solide, qui veut dire donc solide et gloria, à Dieu seul soit la gloire, l'un des cinq solas de la réforme. Et aujourd'hui, c'est sans doute il est considéré comme l'un des plus grands musiciens. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Tout parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Et il est de notre responsabilité, dit, de veiller à honorer Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans l'exercice de notre art, mais aussi dans notre foyer, dans notre vie de couple, pour ceux qui sont mariés, auprès des enfants, si nous en avons, dans nos relations avec les autres, dans la gestion de nos biens, dans notre vie personnelle. Au fond, ça concerne l'intégralité de notre vie, de tous les jours. Se laisser dévorer par une ambition toute humaine, au seul service de sa propre personne, c'est courir le risque de créer des déséquilibres, de se laisser entièrement absorber par une passion, quitte à sacrifier nos relations, notre santé, de n'être préoccupé que par cette ambition, quitte à ce qu'elle nous consume de l'intérieur. Notez que cette ambition toute humaine peut tout à fait se retrouver dans l'exercice du ministère, quand on ne cherche plus à servir la gloire de Dieu, mais qu'on finit par plus qu'à se servir soi-même. Ça existe. Et on a alors oublié au nom de qui on s'est engagé. Donc cette vigilance, cette veille, s'adresse à tous, et peut-être plus encore, s'adresse à celui qui est engagé pour le service de Dieu à plein temps notamment. L'ambition qui cherche à honorer Dieu, à lui rendre gloire, et me semble-t-il d'une toute autre nature que l'ambition humaine que je viens d'évoquer ici. D'abord, elle dépend de Dieu, de sa grâce. Elle s'en remet chaque jour à la bonté infinie de Dieu. Ensuite, cette ambition n'est pas présomptueuse. À chaque jour suffit sa peine. Et enfin, elle n'est pas en souci du lendemain, parce qu'elle sait que le lendemain prendra soin de lui-même. Elle sait que, eh bien, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit au jour de demain comme il le fait pour aujourd'hui. Lui qui pourvoit à la nourriture des oiseaux, mais aussi à la belle apparence des lys dans les champs, combien ne prendra-t-il pas autant plus soin de nous, nous qui sommes ses enfants, et ce, dans tous les domaines de notre existence. C'est l'argument que Jésus utilise quand il nous invite à considérer la nature autour de nous. Ainsi, du point de vue biblique, l'ambition est d'abord affaire de priorité pour aujourd'hui et pas pour demain, comme on aurait peut-être tendance à le penser, hein, être ambitieux pour demain, se fixer des objectifs pour demain, non, déjà pour aujourd'hui. Chercher d'abord le règne de Dieu et sa justice. Avec John Stott, que je citais il y a un instant, Je dirais volontiers que chercher le règne de Dieu, c'est désirer, et je le cite ici comme une chose primordiale, la souveraineté du Christ. Désirer comme une chose primordiale, la souveraineté du Christ. Mais j'ajouterai le désirer aujourd'hui et dans tous les domaines de sa vie. Chercher d'abord le règne de Dieu fait écho dans ce chapitre 6 à la prière que Jésus vient d'enseigner juste avant, au verset 10 du chapitre 6, quand il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». L'ambition pour le disciple du Christ n'est donc pas seulement une question de priorité, mais aussi d'allégeance, d'obéissance à la volonté de Dieu. Quant à faire de ce qui est juste aux yeux de Dieu notre préoccupation première, et là ici je reprends la semeur, eh bien cela devrait nous inciter à être témoins du Christ, là où Dieu nous place, en fonction des dons qu'il nous fait, que cela puisse se voir autour de nous. Que les autres puissent voir cette justice se manifester. Comment être ambitieux pour Dieu en tant qu'artiste? C'est sans doute ce dont il va être question tout au long de la journée. Et je ne vais pas trop rentrer dans ce débat moi-même, mais je terminerai mon propos par cette citation qui répond en partie à cette question. Il s'agit simplement d'être ce que je suis appelé à être, dans la certitude fondée sur la foi que le Seigneur m'estime, quelle que soit ma réussite aux yeux du monde. Seul l'Esprit Saint peut m'aider à affiner toujours davantage mes motivations et à les passer au crible de l'Évangile. Un chrétien ne sera jamais assez ambitieux, c'est vrai, mais seulement s'il sait dans son cœur qu'il ne sera jamais assez humble.